On se désorganise. C'est assez.
Du lundi.
À 19h, le podcast des grands événements boulevard revient sur les attentats de la mosquée. Manquez pas ça. Marceau s'en vient. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Prenons soin des autres aussi. On se reparle demain.
Salut!
Salut!
Bye! Bye!
Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le pit stop avec Denis Gravel, 7h45. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonine Iaccarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parler en semaine.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom c'est Yann Marceau, je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes. Juste avant de te présenter mon invité de la soirée en ce lundi 1er décembre 2025, eh bien, on va regarder ce qui se passe côté météo. Ciel dégagé pour ce soir, va faire fret, ce sera pas chaud pour la pompe à l'eau. On parle de refroidissement éolien ce soir et cette nuit. Température ressentie d'à peu près moins 16 degrés. Oui, on est rendu là, on lâche pas, il reste quelques mois encore. Pour ce qui est de demain, mardi, ce sera nuageux. Avec 2 cm par endroit, un maximum de 6. C'est de la neige, bien entendu. En soirée, ciel dégagé pour demain, avec un minimum de moins 13. Et mercredi, déjà, milieu de semaine, bien, ce sera un maximum de moins 7 degrés. Et en soirée, ce serait de la neige, avec un minimum de moins 7. Mon invité, comme à chaque lundi, c'est l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare, qui sera des nôtres. C'est un spécialiste de la SAAC, d'IVAC, de la CNESST. Donc, si vous avez les dossiers, c'est bellemareavocat.ca. Je pèse sur le piton, puis tout ça, ça part.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, Maître Bellemare. Comment allez-vous en ce lundi 1er décembre? Avez-vous vos pneus d'hiver? C'était la dernière journée, là.
Ben oui, j'espère. Hey, y a-tu quelqu'un qui a pas ses pneus d'hiver?
Ben écoute, moi,
avec la température qu'il fait, là, j'espère qu'il y en a qui vont prendre leur leçon, là, se promener avec des pneus à fesses, là. Bumper le voisin.
Hier, Maître Bellemare, ben, en fin de semaine, j'étais en tournoi de hockey dans le secteur de Boisbriand, puis j'ai pris la 40, et quand je suis revenu vers chez moi, j'ai repris la 40, Maître Bellemare, et j'étais capable d'identifier qui était encore sur les pneus d'été versus qui étaient ceux qui étaient sur les pneus d'hiver. Il y en a qui étaient à 40 km/h sur l'autoroute, Maître Bellemare, 4 flashers. Les véhicules allaient de gauche à droite. Ça semblait être extrêmement dangereux. Puis ces gens-là, bon, tu sais, moi, quand vous risquez votre vie, tu sais, l'idéal, c'est de pas risquer votre vie, là, mais quand vous risquez la vie des autres, là, moi, ça me fatigue. Tu sais. C'était facile de rouler hier sur la 40 là, de Montréal vers l'est. Là, je vous dirais vers, mettons, à 70 km/h. C'était très, très sécuritaire à 70 km/h. De voir des gens à 30-45 km/h, ces quatre flasheurs sur l'autoroute, je me disais, mais bon Dieu, ces gens-là pensent à quoi risquer leur vie comme ça?
Oui, puis il y a des hivers qui sont moins annonciateurs que d'autres, tu sais. Cette année, on a eu quand même, depuis la mi-novembre, des bonnes bordées de neige qui ont resté. Hein. Souvent, ça vient, ça part, il tombe de la pluie, la température est instable, mais là, on a des froids assez constants depuis la mi-novembre. Je ne peux pas croire que des gens n'ont pas compris que ce signal-là commandait des changements de pneus, là, tu sais, pour les pneus d'hiver, c'est quoi? Là, on est rendu, tu sais, le 1er décembre, Yannick, moi, je comprends pas ça parce que je voyage souvent au Québec, je vais au Saguenay, je suis allé il n'y a pas tellement longtemps, dans le bas du fleuve, puis souvent, on a de la neige.
Ah oui.
Alors, c'est assez prudent, puis les pneus d'hiver, moi, sont changés déjà au début novembre. Je prends pas de chance parce que dans le parc des Laurentides, j'ai déjà pogné de la neige, puis du gadou, de la gadou à mi-octobre. Alors, depuis ce temps-là, je prends pas de chance, mais même pour les gens qui demeurent sur place, il me semble que cette année, on a eu des signaux assez clairs comme quoi l'hiver est arrivé, tu sais. Fait que les pneus d'hiver, il faut les changer. Si vous ne les changez pas pour vous, puis ça ne vous dérange pas de briser votre char dans le fossé, au moins changez-les pour moi.
Changez-le pour les autres, effectivement. Mais comment on faisait, Maître Bellemare, pour passer des hivers avec nos quatre saisons à l'époque? Il y avait les hivers étaient-tu moins pires? Hey, il y avait des gens qui passaient l'année au grand complet avec des quatre saisons. Des fois, c'était ça à fesse. Puis aujourd'hui, ça serait impensable. C'est-tu parce qu'on devient trop pépin? On devient-tu trop mononcle?
Non.
Non?
Moi, je pense que de tout temps, ça a été de la négligence parce que porter des pneus quatre saisons était comme hiver. Ils appelaient ça des pneus quatre saisons, mais tout le monde comprenait que l'hiver, c'était moins sécuritaire que des vrais pneus d'hiver. Alors, les fabricants ont fait de l'argent avec ça, mais l'été, il n'y a pas de problème, mais l'hiver, il y a tellement de conditions changeantes, puis c'est tellement dangereux que faut. Je pense que ça prend des bons pneus, puis je comprends que des fois, ça coûte cher, mais. Si tu veux rouler l'hiver, puis si tu veux pas avoir de problème, si tu as des enfants surtout qui sont attachés en arrière, là, moi je défends les accidentés de la route là, depuis 46 ans, Yannick, là. Puis j'en vois des gens qui viennent me voir avec des problèmes de cette nature-là. Tu sais, ils ont pris le clos, ils ont dérapé, ils ont été pris dans des espèces de collisions multiples là, sur des barrages là, sur l'autoroute. Mais souvent, c'est à cause de ça. Puis quand tu regardes le rapport de police, tu vois que les pneus étaient déficients. Ça ne veut pas dire qu'il était en illégalité. Il y avait des pneus d'hiver, mais il y avait des pneus d'hiver qui n'étaient pas fonctionnels. Fait qu'écoutez le détaillant aussi, écoutez le gars qui change vos pneus, puis il va vous le dire si vos pneus sont rendus passé date pour que vous soyez en sécurité. C'est important.
Y a-tu quelque chose dans la loi, je parle au point de vue criminel, là, si jamais un garagiste vous change les pneus puis il vous laisse repartir avec des pneus sur la fesse, est-ce qu'il y a, si jamais cette personne-là se tue, est-ce qu'on peut revenir contre le garagiste qui a accepté que son client parte comme ça avec des pneus sur la fesse? C'est de la négligence
C'est plus
criminelle, ça?
difficile. Oui, c'est de la négligence criminelle pour le gars qui conduit ou la fille qui conduit avec des pneus déficients. C'est comme des freins déficients, des problèmes mécaniques sur le véhicule. Oui, vous pouvez être accusé de négligence criminelle. La négligence criminelle, c'est le comportement déréglé et téméraire à l'égard de la vie d'autrui. Mais là, faut que la couronne prouve que tu savais que tu avais des pneus finis, que tu savais que tu avais des brakes finis, que tu savais que tu avais un problème d'alignement important sur ton véhicule, que ton véhicule était finalement tellement déficient, que ce soit des pneus ou autre chose, qu'il y avait des risques importants que tu sois impliqué dans un accident. Alors, ça s'appelle la négligence criminelle, mais c'est tout un fardeau de prouver ça pour la couronne, mais ça se fait. On l'a vu dans certains dossiers, il n'y a pas très longtemps, des propriétaires de camions qui ont été condamnés pour négligence criminelle parce qu'ils avaient laissé un chauffeur conduire avec des freins complètement déficients, puis il y a eu un accident mortel qui est survenu. Je pense que c'est dans la région de Charlevoix ou dans la côte de Beaupré. Et j'ai été consulté dans cette affaire-là, moi, par la famille, et il y a eu une condamnation pour négligence criminelle. Pour des pneus, c'est beaucoup plus rare, mais pour des freins, ça arrive assez souvent. Là, c'est une expertise mécanique qui va se faire. Il n'y a pas tellement longtemps, à Saint-Joseph-de-Beauce, il y a une petite fille qui a été tuée par un camionneur qui a descendu la côte là, à Vallée-Jonction.
Vallée-Jonction, oui.
Vallée-Jonction, il y a une jeune dame qui a été tuée, qui circulait sur le long de la rivière Chaudière, puis qui a été frappée de plein fouet par un camion qui descendait la côte, qui n'avait plus de break. Là, je ne sais pas ce qui est advenu de ça. Aux dernières nouvelles, la Sûreté du Québec est en train de faire des expertises pour vérifier l'état du véhicule et surtout la connaissance de l'état du véhicule. Parce que c'est pas tout de prouver qu'il y a une déficience sur le véhicule, il faut que tu prouves aussi que le propriétaire était conscient, savait que ce véhicule-là, qui était incompétent, circulait sur la voie publique. À ce moment-là, tu peux avoir une prise pour obtenir une condamnation pour négligence criminelle.
Exact.
Oui, faut que tu t'assures d'avoir un véhicule qui est conforme, mais ça se peut que tu ne le saches pas aussi, là. Tu sais, quand tu me parles du poseur de pneus qui décide de poser des pneus tout croche, ça c'est un peu comme le propriétaire de bar qui laisse aller un gars complètement saoul et qui le laisse aller malgré le fait que le gars était saoul et qu'il le savait. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir la responsabilité criminelle du mécanicien ou d'un propriétaire de bar que de la personne elle-même qui était au volant au moment où l'accident était causé. C'est surtout ça qui compte.
Maître Bellemare, je vais vous parler de la chef de la FTQ, Magali Picard, qui nous en fait voir des vertes et des pommures. C'est quelqu'un qui est très mal engueulé. Elle ne semble pas au courant de certains pans de l'histoire de l'humanité. Considère que le Québec, c'est un endroit aussi pire que la Russie, qu'elle vit dans une dictature. Elle parle de chaos social. Elle parle de revirer le Québec à l'envers parce que la FTQ fait face à un gouvernement de la CAQ qui veut rééquilibrer les pouvoirs de force. Dans une entrevue, c'est jeudi ou vendredi qu'elle a accordé à l'imbuvable, à mes oreilles à moi, Patrick Lagacé. Elle mentionne qu'elle se fait traiter différemment parce qu'elle est une femme. Je trouve ça très particulier, là. Je me demande, tu sais, cette personne-là, est-ce qu'elle est... Pourquoi on l'a mis en place? Pourquoi on l'a mis à cet endroit-là? Je comprends que dans les années 80 et les années 70, les chefs syndicaux avaient un vocabulaire qui était particulier. Mais aujourd'hui, 2025, là, se permettre tous ces écarts de langage-là, de dire que le Québec, c'est une dictature, on a-tu vraiment à la bonne personne à la tête de la FTQ, Maître Bellemare?
Bien, je pense qu'elle discrédite le mouvement syndical, clairement. Je l'ai déjà dit et je le redis aujourd'hui. J'estime que Mme Picard, par son langage, autant par la forme, les termes utilisés que par le fond, hein, quand elle parle de dictature, d'autoritarisme, du fait qu'elle est une femme et c'est à cause de ça qu'elle est discréditée. Je pense qu'elle est discréditée parce qu'elle dit quantité de niaiseries dans une même phrase. Et ce qu'elle veut faire, elle, c'est de la politique, là. Carrément, là. C'est une politicienne, là. C'est une politicienne qui met le chapeau du syndicalisme. C'est tout ça, là. Parce que, au fond, son objectif, c'est quoi? C'est de s'assurer que la CAQ va être battue à la prochaine élection. Donc, elle se comporte vraiment. C'est plus. Tu sais, elle dit on est un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir, c'est un groupe de pression dans la société. T'sais. Centraide est un contre-pouvoir. À la limite, un poste de radio ou un journal constitue un contre-pouvoir, mais ça, on le sait. Les médias d'information constituent
le quatrième
un pilier
pouvoir
de la démocratie,
exact.
Parce qu'ils donnent de l'information, parce qu'ils vont chercher de l'information.
Ouais.
Ils expliquent un petit peu les volontés politiques et ils les remettent en question à l'occasion. Mais là, c'est quoi, là? C'est comme un parti politique. Ils n'aiment pas Legault, ils n'aiment pas Boulay, puis ils organisent des manifs pour contester le gouvernement. Alors, dans cette manif-là, qui avait lieu en fin de semaine, il y avait des groupes de pression de toute nature. Il y avait des groupes qui favorisaient Gaza, il y avait des groupes de femmes, il y en avait qui étaient pour le port du voile, il y avait toutes sortes de monde. Tous les mécontents étaient là, finalement. Alors, c'est une manifestation politique. À travers ça, on sait que la FTQ veut contester le projet de loi du ministre Boulay qui veut amener une plus grande démocratie syndicale, qui veut s'assurer que les cotisations vont être utilisées à bon escient, qu'il y aurait des cotisations obligatoires pour les mandats strictement syndicaux, comme négociation de conventions collectives, représenter des syndiqués dans le cadre d'arbitrage de griefs, ces choses-là, qui sont des missions purement syndicales en vertu du Code du travail. Mais le gouvernement dit, bien, quand vous allez à Dubaï pour des sommets écologiques, Mme Picard, puis quand vous allez prendre position pour un parti politique ou pas, quand vous allez faire de la publicité pour faire tomber un gouvernement, bien ça va peut-être être une mission qui n'est pas strictement centrée sur vos mandats syndicaux. Donc, vous allez devoir avoir une cotisation spéciale pour obtenir l'accord des membres. Est-ce que les membres sont d'accord pour attaquer devant la Cour une loi comme la Fédération autonome de l'enseignement est en train de le faire avec la loi sur la laïcité? Ils sont rendus à la Cour suprême. Ça va coûter 2, peut-être 3 millions aux syndiqués de la FAE. Alors, si la FTQ veut prendre des recours contre le gouvernement pour faire annuler des lois, bien, à ce moment-là, ça va prendre un mandat spécial. Qui peut être contre ça, tu sais? Parce qu'au fil des années, les syndicats, depuis les années 60, se sont donné toutes sortes de missions. Puis, il y a des missions qui sont très coûteuses là-dedans. Et c'est les syndiqués qui payent pour ça. Et je pense que le ministre a l'appui de la population. Moi, ce que j'entends autour de moi, là, je ne suis pas un sondeur, mais ce que j'entends autour de moi, c'est que les gens, et même les syndiqués, sont favorables à ce qu'il y ait deux types de cotisations, à ce que les syndicats soient obligés de montrer patte blanche quant à leurs états financiers, qui obtiennent des votes dans des contextes très encadrés, qui reflètent véritablement la volonté de leurs membres. Alors, il n'y a pas été beaucoup question de ce projet de loi-là dans la manifestation de la fin de
Non,
semaine.
non, c'est des.
Pas l'affaire.
Les manifestations, c'est légal au Québec, c'est légal au Canada. Moi, c'est bien correct. Puis, tu sais, il y avait
Non,
des
mais
gens qui étaient.
l'objet de la manifestation, Yannick, c'était quoi? C'était de faire tomber un gouvernement
Je comprends
antidémocratique,
tout ça.
autoritaire, tout ça. Mais c'est. Madame Picard est en train de montrer, par cette manifestation-là, que elle a des visées qui sont bien au-delà de sa mission centrale, qui est de représenter les travailleurs de la
Mais
FTQ.
tu sais,
C'est
je.
ça l'affaire. Elle est en train de montrer par l'absurde que ce qu'elle recherche, c'est une réalisation politique, c'est-à-dire de faire en sorte que François Legault ne soit pas réélu à la prochaine élection et que le remplaçant de François Legault, que ce soit le PQ ou le Parti libéral ou peu importe, à l'élection de l'automne 2026, s'engage à ne pas aller dans cette direction-là. Quant à la loi pour la démocratie syndicale que le ministre Boulay veut promulguer, ou bien de la retirer si jamais elle est adoptée au moment de la prochaine élection. Mais pour en arriver à ça, elle prend des chemins qui sont strictement politiques, et c'est une politicienne. Alors, si elle veut faire de la politique, mais qu'elle se présente dans un parti, puis qu'elle suive les règles, puis qu'elle aille chercher l'approbation de la population, pas nécessairement uniquement des membres de la FTQ.
Je compte plus le nombre de gars qui m'ont écrit en fin de semaine pour me dire à quel point ils étaient découragés d'être défendus par cette personne-là. Puis le fait qu'elle utilise la carte « Je suis une femme, c'est pour ça que vous m'attaquez ». Non, on vous attaque sur vos propos. Puis oui, en fin de semaine, je suis d'accord avec Martineau, là, que ce qu'il a écrit dans sa chronique ce matin, c'est un rassemblement de n'importe quoi. Là. Des gens mêlés des manifestations, vous avez pas idée à quel point il y en a. Puis si on pouvait faire notre fameux guinantel, là, puis faire poser des questions à chaque manifestant, vous rendriez compte qu'à travers le 100% de manifestants, il y en a à peu près 60 qui ne savent pas véritablement pourquoi ils sont là. Ils ont juste suivi les autres. C'est l'effet de foule qu'on appelle. Ça s'explique en psychologie. Si vous mettez une file à quelque part, instinctivement, il y a des gens qui vont faire la file sans savoir qu'est-ce qu'il y a au bout de cette file-là. Puis c'est comme ça, les manifestations. Mais l'utilisation de ces mots-là, elle doit faire attention à l'utilisation de ces mots. Je reviens au fait qu'elle a dit que le Québec était une dictature, Maître Bellemare. Elle n'a jamais été en Corée du Nord. Elle n'a jamais été en Russie. Elle n'a jamais été au Venezuela avec Nicolas Maduro. Si Magali Picard faisait la même job dans ces pays-là, elle tomberait en bas d'une galerie, ou elle tomberait en bas des marches, ou elle boirait un thé avec un élément assez spécial dans le thé qui ferait en sorte qu'elle n'existerait plus. À crier tout le temps au loup, à un moment donné, les gens ne l'écouteront plus. C'est une
Non,
honte
mais c'est
le
ça.
vocabulaire qu'elle utilise, là.
Mais c'est déjà fait, Yannick, là. Je pense que les gens ont compris que c'est un comportement hystérique, excessif, abusif. Les raisonnements sont biaisés. Le ton est inacceptable. Et je pense que les carottes sont cuites. Oui, il y a eu 50 000 personnes autour, là, dans les rues de Montréal la fin de semaine dernière. Mais réunir 50 000 personnes à partir d'une organisation syndicale comme ça, la FTQ, qui est la plus grande centrale au Québec, qui est bien rodée, qui sort d'un congrès, il y a eu du monde, c'est bien certain. Mais dans la population en général, je pense que Magali Picard a perdu de la crédibilité. Elle en aurait eu si elle avait un ton acceptable. Je me souviens de Diane Lavallée, les plus vieux se souviennent de ça. Probablement que toi, tu es trop jeune, mais Diane Lavallée avait été candidate pour le Parti québécois en 1994, et avant ça, elle avait été présidente de la FIQ. Et c'était une femme extraordinaire, un discours posé, excellente communicatrice, et je me souviens d'entrevues qu'elle avait données au point à l'époque à Radio-Canada, ça avait fessé, puis le gouvernement avait été obligé de concéder des bonnes conditions de travail aux infirmières du Québec grâce à la performance de Diane Lavallée, qui avait une bonne crédibilité dans la population, puis qui expliquait clairement c'est quoi les besoins en santé, puis pourquoi on a besoin de s'occuper davantage des infirmières. C'est mémorable dans l'histoire du syndicalisme québécois. Elle avait obtenu de bons résultats. Puis je me souviens de Louis Laberge, le président de la FTQ, qui était convivial, puis même Henri Massé, en 2003, 2002, 2003, 2004, qui était président de la FTQ. Clément Godbout, on a eu des présidents qui avaient du tonus, qui avait des tons assez affirmés. mais jamais dans l'excès puis dans les insultes, comme ce que Mme Picard a présenté, notamment en commission parlementaire la semaine passée. À mon avis, là, les Québécois ne suivent plus de ce côté-là. Les Québécois sont des gens qui aiment les consensus, qui aiment qu'il y ait des ententes. Ils ne sont pas fondamentalement antisyndicaux, mais il y en a plusieurs à l'occasion de la dernière année où on a connu des grèves dans à peu près tous les secteurs, l'éducation, les CPE, le transport en commun, surtout la dernière grève à Montréal qui a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Je pense que les Québécois en ont assez, puis pour plusieurs, ils considèrent que les syndicats ont trop de pouvoir au Québec, puis ils veulent essayer de redresser la tendance. Puis le ministre Boulay arrive avec une loi qui va un peu dans ce sens-là, non seulement la loi sur la démocratie syndicale, mais la loi aussi pour restreindre le droit de grève, qui sont deux lois différentes, mais qui ont, à mon avis, la population, l'appui de la population. Je pense que le gouvernement fait bonne route pour aller dans cette direction-là. À l'heure actuelle, je ne dis pas que ça aurait été la même chose il y a 10 ans, mais je trouve qu'actuellement, le contexte se prête bien aux lois du ministre Boulay. Puis Boulay est un gars qui est assez bon communicateur, très serein, très calme, perd pas les pédales. C'est pas un ministre hystérique, là. On n'a pas affaire à un Fitzgibbon,
Non,
là.
il
On a
pourrait.
affaire à quelqu'un qui est calme, qui est posé. Ça fait longtemps qu'il est ministre du Travail. Il connaît très bien les recettes. Et je pense que le ton de Mme Picard est totalement inapproprié et improductif dans les circonstances.
Refuser de serrer la main à M. Boulet, il faut le faire. M. Boulet pourrait faire une autre profession, il pourrait être bibliothécaire, puis on ne serait pas surpris. C'est un gars qui est très posé, un gars qui est calme, comme vous dites, aucune agressivité en lui, puis on a une Magali Picard qui appelle au chaos. Bref, je vais m'arrêter là-dessus pour ce qui est de Magali Picard. Je pense qu'on a beaucoup trop parlé. Maître Bellemare, du temps où vous étiez ministre de la Justice pour le Québec, vous étiez un libéral. Est-ce qu'il y avait de l'interventionnisme de la part du gouvernement libéral fédéral ou de la part du Parti libéral fédéral à votre époque où vous étiez au Parti libéral du Québec?
Bien, il y avait une forme de collaboration, mais qui n'était pas une collaboration politique, mais une collaboration gouvernementale. Parce que faut comprendre qu'à l'époque, moi, mon vis-à-vis, c'était Martin Cauchon, qui était ministre de la Justice au fédéral. À l'époque, c'était, bon, ça a été Chrétien, puis après ça a été Martin, Paul Martin, premier ministre, 2003-2004. Mais Martin Cauchon était mon vis-à-vis ministre de la Justice du Canada, puis on avait des collaborations, puis on se parlait souvent dans des dossiers comme l'aide juridique, puis ces choses-là. Mais du côté des partis, j'ai jamais senti que le Parti libéral du Canada, en tout cas à l'époque où j'étais là, avait un certain ascendant ou une certaine auréole sur le gouvernement ou le Parti libéral du Québec. Mais d'après ce qu'on entend ces jours-ci avec Pablo Rodriguez, ça a l'air que le Parti libéral du Canada a vraiment aidé M. Rodriguez à accéder à la chefferie du Parti libéral du Québec. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un retour d'ascenseur puis qu'il faut penser à une certaine influence démesurée de la part du fédéral dans un parti provincial? Parce que depuis Jean Lesage, le Parti libéral du Québec a toujours été très fier de son indépendance. Est-ce que ça va changer? On ne sait pas.
Parce que là, le bureau d'enquête de Québécois a travaillé très fort là-dessus. Ils ont sorti des noms. Et dans ces noms-là, qui ont contribué à l'élection de Pablo Rodriguez comme chef du Parti libéral du Québec, il y aurait une quarantaine d'élus et il y a aussi des employés actuels ou passés qui ont contribué à la campagne de Pablo Rodriguez. Donc, ça peut être un petit 100 $, ça pouvait aller jusqu'à 500 $. Entre autres, M. El Khoury, là, qui fait beaucoup la manchette, qui a fait beaucoup la manchette la semaine dernière, aurait lui-même donné 500 $. Il y en a qui vont dire, ben, c'est un hasard. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'était des collègues, donc ils ont le droit de l'aider. Ce matin, à l'émission avec les collègues dans le show du matin, on se posait la question, tu sais, c'est-tu la peur de Paul Saint-Pierre Plamondon avec son annonce comme quoi il veut faire un autre référendum qui fait peur au fédéral, ce qui fait en sorte qu'ils essayent de mettre leur pion en place. C'est-tu ça? C'est une hypothèse qui se vaut. Moi, je n'embarque pas nécessairement là-dedans. Mais il y en a qui disent, ben, c'est peut-être qu'on se prépare au Canada à un prochain, une prochaine question, à savoir si les Québécois voudraient se séparer ou non. On est-tu en train de se préparer, Maître Bellemare, selon vous?
Je ne sais pas, mais ça n'a jamais aidé pour un chef. un chef politique, chef du Parti libéral du Québec, d'avoir trop d'acquaintances avec le fédéral. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se parlent pas. Ils sont tous les deux fédéralistes, c'est bien évident. Puis dans un contexte référendaire, je pense bien que le PLQ serait pas trop loin du PLC, donc du Parti libéral du Canada. Mais moi, j'ai l'impression que là, il va y avoir un certain discours à arrimer par rapport à la souveraineté, là, parce que les dernières déclarations de Mélanie Joly, là, qui disait que Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois voulait livrer le Québec à Trump, là, ça n'a pas fait vieux os, hein. Elle a eu l'air un peu toutoune, là. Ça n'a pas été tellement prisé, ça n'a pas été tellement accepté comme déclaration, puis c'est très, très exagéré. Et puis un autre député fédéral, là, je pense, il n'y a pas tellement longtemps, là, qui a dit des choses là, par rapport à la souveraineté, là, que ça allait être catastrophique, l'armée américaine, puis tout ça. En tout cas, écoute, il va falloir qu'il y ait un discours qui soit un peu plus raffiné. Moi, je pense que les gens du camp du non devraient commencer à élaborer un discours très, très technique sur la souveraineté. Qu'est-ce que ça va coûter? Qu'est-ce qu'on va faire pour la succession d'État? Qui va assurer la dette du fédéral en cas de oui? Comment le Québec va survivre à un éventuel oui? Est-ce qu'il va y avoir un appauvrissement? Je pense que c'est ça qu'il faut faire du côté des fédéralistes, mais plutôt que des déclarations creuses pour faire peur au monde, parce que je pense que les Québécois sont moins peureux qu'ils étaient dans les années 80. Parce qu'en 1980, au référendum, les campagnes de peur, vous allez perdre vos pensions du fédéral, vous allez perdre vos allocations familiales, ça a marché. Mais aujourd'hui, je pense que les gens sont capables de compter, puis ils sont capables de savoir que finalement, si tous les impôts vont en Québec, normalement, les allocations familiales devaient suivre avec une fleur de lys sur le chèque plutôt qu'une feuille d'érable, là.
Effectivement. Puis pour ce qui est des prestations, la prestation publique de Pablo Rodriguez, est-ce que vous le trouvez convaincant comme chef du Parti libéral du Québec? Et c'est un mauvais communicateur. Je ne le voyais pas sous cet angle-là lorsqu'il était au fédéral. Il accordait très peu d'entrevues. On voit que c'est un mauvais communicateur. On voit qu'il est extrêmement nerveux. Dit beaucoup trop de phrases pour tenter d'expliquer quelque chose qui est quand même assez simple, ne semble pas écouter ses proches conseillers politiques. On se serait contenté d'une feuille 8,5 par 11 avec une dizaine de lignes en disant « je vais faire mon possible pour que toute l'enquête ait bien, puis si jamais les enquêteurs ont besoin de moi, ben je serai là pour donner mon témoignage. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Maintenant, on se consacre à la politique, puis on quitte. » Mais c'est pas ça qu'ils ont fait, là. Ils ont fait des conférences de presse désorganisées où les journalistes le bombardaient de questions. Il était incapable de s'en sortir. Ça a été une catastrophe médiatique pour le Parti libéral du Québec. Et là, ce matin, bien, avec l'article de Québécois, il fait encore jaser. Est-ce qu'il va rester là? Ou on pourrait juste lui dire, bien, regarde, Pablo, ce sera peut-être pour une prochaine fois, mais là, c'est pas avec toi qu'on va se rendre aux élections.
Oui, c'est ça, mais il y a un véritable problème qui se pose du fait que c'est Marois Risky, qui est vraiment la personnalité la plus en vue et probablement la plus aimée du Parti libéral du Québec, qui est au cœur de la problématique. Quand le congédié Geneviève Hinds, sans en parler à Pablo Rodriguez, ça a mis le feu aux poudres. Lui, il l'a sorti du caucus. Je continue de penser que c'était une erreur. Mais là, c'est que la zizanie vient de l'interne du parti. C'est un peu comme quand Lucien Bouchard a quitté le Parti conservateur de Brian Mulroney. C'était des amis. C'est difficile à gérer quand c'est une crise qui vient de l'interne. C'est-à-dire que quand tu perds un de tes soldats les plus précieux comme chef de parti, comment tu deals avec ça? Ça vient pas de l'extérieur, là. C'est pas une nouvelle qui est sortie d'un autre parti ou d'un groupe de pression ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment une chicane. Puis Madame Risky continue d'être députée à l'heure actuelle, même si elle a été exclue du caucus. Elle continue. Puis là, on est en pleine session parlementaire. Alors, ça vient affaiblir la période de questions, ça vient affaiblir la position du parlementaire, si tu veux, du Parti libéral. Alors, le gouvernement du Québec continue d'avancer avec ses projets syndicaux, ses projets de loi sur les médecins. Puis, l'opposition officielle, c'est le Parti libéral du Québec, mais ils sont beaucoup plus absents depuis que Mme Risky a quitté. Et André Fortin, qui l'a remplacé comme leader parlementaire, n'a pas la même étoffe, la même spontanéité, le même charisme que Mme Risky. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que les libéraux ne sont pas capables de trouver un sujet politique qui pourrait éloigner la presse et la population du débat interne au Parti libéral du Québec. Pourquoi, par exemple, on n'arrive pas avec une espèce de plateforme anti-référendaire? Ou pourquoi on n'arrive pas avec des sujets qui toucheraient éventuellement la souveraineté du Québec en disant, nous, le Parti libéral du Québec, on demande à Saint-Pierre-Plamondon des éclaircissements sur tel point. Pourquoi il n'arriverait pas avec une nouvelle idée pour nous dire comment il dealerait par rapport au dossier avec les médecins? Pourquoi il n'arrive pas avec un nouveau sujet politique, parce qu'on est quand même à moins d'un an de l'élection de 2026, là. On peut avoir droit à certaines choses. C'est le temps de présenter des sujets. Puis dire, nous, les libéraux, à la prochaine élection, on va faire ci, puis on va faire ça, puis on promet tel. Peut-être c'est le temps de rapprocher certaines promesses électorales, même si l'élection a lieu dans 11 mois. C'est peut-être le temps d'arriver avec des nouveaux sujets pour faire diversion par rapport au conflit à l'interne, puis amener les journalistes, puis l'opinion publique ailleurs que sur ce sujet-là. Il parle, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il parle du conflit interne. Il n'y a pas d'idée.
Non.
Il n'y a pas d'idée sur les finances du Québec, comment on va régler le problème de la dette, comment on va régler le problème dans les écoles, comment on va régler la pénurie de main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on propose par rapport à l'immigration. Il y a énormément de sujets, Yannick, sur lesquels Pablo Rodriguez pourrait établir actuellement en nous disant, nous, on va faire ci, nous, on va faire ça, mais il ne parle pas d'autres choses. On dirait qu'il y a rien dans Marmite pour pouvoir amener l'opinion publique ailleurs que sur le conflit interne. Fait que les journalistes, c'est pas une journée où les médias arrivent pas avec une nouvelle affaire. Là, c'est sûr que ça stagne un peu parce qu'on a fait le tour de la question pas mal, mais encore aujourd'hui, il y a des chroniqueurs qui nous parlent de ce qui se passe au niveau des
Exact.
libéraux,
Donc, je reviens à ma feuille 8,5 par 11, là. Donc, une déclaration, puis maintenant, on passe à d'autres choses, puis on amène d'autres sujets, justement, pour amener les journalistes ailleurs. Puis, tu sais, souvent, là, les personnels politiques sont un peu comme les avocats tannants, là. C'est-à-dire que quand il y a une cause qui est en attente, là, c'est fermetagueule.com. Ben lui, visiblement, ne semble pas avoir ce type de conseil-là, là. Et ou s'il y a ces conseils-là, Pablo, fermetagueule.com, ben ils les écoutent pas, tu sais, parce que là, il a de l'air vraiment d'un chevreuil sur une patinoire, incapable de faire un pas sans trébucher. C'est une catastrophe pour le Parti libéral. Soit dit en passant, j'ai d'autres sujets à jaser avec vous, donc je dois continuer d'avancer. La police de Montréal, Maître Bellemare, et là, on va s'appeler Radio Conspi dans les prochaines secondes. La police de Montréal qui va surveiller maintenant en temps réel, avec ces caméras qui sont placées à certains endroits dans la ville, va surveiller les citoyens avec l'aide de l'intelligence artificielle. On s'est doté d'un logiciel qui a coûté 1,8 million de dollars, et ça, c'est pour les 5 prochaines années. Et ce qu'on nous dit, c'est que on va vous surveiller, tout simplement. Donc, ça relève des films de science-fiction, puis ça s'en vient aujourd'hui, en 2025, où là, on se tourne vers ce genre d'outils-là. Donc, si on recherche quelqu'un, on est capable de mettre sa photo. Et si l'intelligence artificielle le détecte sur une des 46 caméras, de ce que je comprends, là, une des 46 caméras de Montréal, ben on va être capable de retrouver la personne. Donc, si c'est quelqu'un qui s'est sauvé d'un CHSLD ou si c'est quelqu'un qui s'est sauvé de la centrale de police, ben on va être capable de le trouver rapidement.
Oui, mais là, tu vas avoir tout ce qui est droits fondamentaux, ligue de ci, ligue de ça, droits et libertés, qui va nous dire, ouais, mais là, c'est Big Brother, on va être surveillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus il y a de plus en plus de surveillance, notre face va se promener, on va être capable de savoir où on est, à quelle heure, quel jour, tout ça. Moi, personnellement, je pense qu'il faut donner priorité à la sécurité. Montréal est une ville qui a perdu beaucoup en termes de sécurité. Les gens ont besoin d'être assurés, les gangs de rue, les assassinats en pleine rue, les problèmes de circulation routière aussi, on en a parlé souvent au pourtour des écoles où les autos vont trop vite, tout ça. Alors, je pense que la ville a besoin d'avoir des outils, en autant que ça sert à combattre le crime puis à prévenir le crime, moi je suis d'accord, prendre toute forme d'initiative parce que la police de Montréal, actuellement, le SPVM est débordé et je pense que la population, les femmes surtout, dans le cas des agressions sexuelles, des meurtres également, il faut être capable de trouver des solutions. Ça en est une. J'imagine que cet outil-là va être capable de nous permettre de résoudre un certain nombre de crimes ou d'en prévenir d'autres, hein?
Oui, mais il y a les logiciels qui n'ont pas eu juste des bonnes choses là, dans le monde. On a identifié des gens, puis on les considérait, ces gens-là, comme des tueurs qui étaient en liberté. On les a arrêtés, puis ben, finalement, on s'est rendu compte que c'est le logiciel qui s'était trompé. Des fois, avec une certaine distance, la caméra, c'est pas une caméra 4K là, parfaite, puis on n'a pas l'image parfaite, ben elle nous envoie un signal comme quoi c'est cet individu-là qui est recherché. Puis plus le gars se rapproche de la caméra, plus le logiciel peut dire « Oh, finalement, c'est pas lui. » Mais les policiers l'ont déjà arrêté, le gars.
Moi, je comprends. C'est sûr que ça peut... Il peut y avoir des cas comme ça, j'en conviens. Les GPS, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, c'est pas parfait. Et ça mérite, dans tous les cas, d'être validé par une intervention humaine, je pense, pour être bien sûr que c'est la bonne personne. Parce qu'on a quand même des règles en droit criminel. Il faut faire preuve hors de tout doute raisonnable. Alors, tu n'arriveras pas juste avec l'intelligence artificielle, tu vas arriver avec aussi des aveux de la part de la personne interrogée ou des corroborateurs ou des témoins visuels, parce que peut-être que la caméra qui pointe le gars qui aurait supposément fait un mauvais coup peut se tromper, mais il y a peut-être une fille qui est à côté, un gars qui est de l'autre bord de la rue qui, lui, pourrait être interrogé pour voir qu'est-ce qu'il a vu exactement, puis il est en mesure d'identifier la personne qui aurait été soupçonnée. Alors, bien sûr que les services d'enquête du SPVM sont quand même sollicités sur une base purement humaine, mais peut-être que ça peut aider à faire un certain travail de recherche pour pouvoir débusquer la personne qui sera éventuellement accusée.
Un tireur actif, exemple, comme on a connu à l'époque au collège Dawson avec Kim Vergil. Si Kim Vergil n'avait pas été abattu à l'intérieur du collège Dawson puis avait pris une porte de sortie, il se serait sauvé, exemple, dans le métro avec son arme. Ben, ce qu'on nous mentionne, selon les experts, c'est que très rapidement, l'arme aurait été détectée avec l'intelligence artificielle. Très rapidement, on aurait eu l'image de l'individu, puis on aurait été capable, même si on a juste un bout partiel de son visage, de reprendre le bout partiel de son visage et de mettre une photo de face pour que les gens puissent l'identifier plus rapidement. Donc, dans ces cas-ci, je trouve ça franchement intéressant. Mais pour avoir vu des documentaires épouvantable sur les systèmes de reconnaissance faciale, entre autres dans des pays de cul comme la Corée du Nord ou la Chine, ben quand on est rendu à avoir un bulletin citoyen, là, si Maître Bellemare, il a pris une gomme puis il a envoyé son papier de gomme à terre, puis là, il reçoit une étiquette à la maison, je trouve que ça va très loin, Maître Bellemare.
Oui, effectivement. Mais les photos radars, ça donne des résultats, en tout cas.
Ben, ça donne des résultats.
On n'est pas sur le même niveau technologique, mais imagine-toi, tu sais, combien de gens se font prendre aujourd'hui, moi le premier, avec des photos radars. Des fois, je ne m'en aperçois même pas, je reçois une étiquette. Au moins, il n'y a pas de points qui partent avec ça. Ben, mais des photos radars, il y a 40 ans, il n'y en avait pas, là, 50 ans. Mais aujourd'hui, il y en a.
J'étais avec mon TQ en fin de semaine. On était au tournoi de hockey à Boisbriand. Puis sur la... Je pense que c'est la 40, là, il y a un photoradar. C'est-tu à 40? En tout cas, bref, à
Boisbriand,
à Boisbriand, il y a un photoradar. Puis j'étais en attente, j'étais à la lumière, puis je le regardais de loin. Il flashait aux 15 secondes, Maître Bellemare. Ça, là, à chaque fois que ça flash, là, c'est du cash qui rentre dans la caisse de l'État. Là. C'est du cash que l'État va pouvoir dépenser.
Ben oui, c'est des impôts de moins à payer pour nous autres, mais à un moment donné, quand on se fait prendre, c'est nous qui payons.
Ah, ils trouveront le moyen de nous en charger pareil, Maître Bellemare, ne vous inquiétez pas. Chaque lundi, on a le plaisir d'être en compagnie de Maître Marc Bellemare de bellemareavocat.ca pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST. C'est le site web à retenir, bellemareavocat.ca. On va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Marceau le matin.
T'appelles Marceau.
Félicitations pour cette organisation hors pair, ce montant amassé. C'est extraordinaire.
Sérieux,
c'est la bouche générale.
Félicitations aux gens de la NSPW, à mon chum Steve Boutette qui était là. Puis à tous les auditeurs aussi qui étaient présents.
Hey, votre gear de lutteur aux couleurs de Boulevard était tout simplement hallucinant.
Mais vu en bobette, les gars, quel impact que ça a eu sur vous autres?
Je sais pas, pas vraiment rien de particulier. Je
m'en souviens pas.
Non.
Marceau, le matin, en semaine, 6h.
Le temps des fêtes approche et vous cherchez un moyen d'aider les gens dans le besoin? Certaines familles ou personnes vulnérables peinent à maintenir une condition de vie acceptable. Noël s'annonce plus difficile pour certains. En cette période d'amour et de partage, rendez-leur un peu de dignité en donnant à la guignolée de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Rendez-vous à faire-la-différence.ca pour un don en ligne ou passez à l'épicerie près de chez vous pour remettre des denrées à nos bénévoles. Cette année, faites la différence.
Salut la gang, c'est François Baudry, chroniqueur web de l'émission Gravel dans le retour. T'aimes mes chroniques? Tu veux en savoir plus sur le monde numérique? Rends-toi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.
FamilyPrix est fidèle au poste avec sa circulaire en ligne. Repérez les aubaines de la semaine sur FamilyPrix.com ou abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir votre circulaire personnalisée avant tout le monde. FamilyPrix, vos économies commencent ici.
Télio Assurance, c'est aussi des assurances spécifiques pour les entreprises. Avec notre département PME et commercial qui travaille pour développer vos solutions d'affaires, qui couvre plusieurs secteurs d'activité et types d'entreprises, nous avons les meilleures solutions pour protéger vos biens et vos actifs. Nous proposons aussi une gamme de programmes spécialisés tels que cyber-risque, camionnage et programmes d'hébergement touristique et de tout genre pour la location court terme. Chez Télio, on se mêle de vos affaires. Visitez telioassure.com.
Cet hiver, offrez-vous une escapade magique dans le Vieux-Québec. L'Hôtel Champlain vous attend en plein cœur d'un quartier historique entre neige scintillante et ambiance romantique. Et grâce à Mercado.fm, profitez d'un forfait exclusif au meilleur prix de l'année. C'est le cadeau de Noël parfait pour surprendre l'être aimé ou simplement pour décrocher du quotidien. Détente, confort et décor féerique vous attendent à l'Hôtel Champlain. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle. Visitez Mercado.fm.
Cet hiver, offrez à votre maison le confort qu'elle mérite. Chez Caron et Gay, profitez de notre promotion exclusive. Le triple verre au prix du double. Une isolation supérieure et des économies d'énergie sans compromis sur le prix. Des produits conçus ici pour les températures extrêmes d'ici. Caron et Gay, c'est l'innovation locale au service de votre maison et de votre confort. Visitez caronetgay.com ou passez nous voir en succursale pour en profiter.
Après avoir ébloui Montréal, Paris et San Francisco. Aura s'installe à l'église Saint-Roch dès le 5 décembre. Une expérience lumineuse et symphonique signée Moment Factory. À vivre juste à temps pour les fêtes. Les billets s'envolent vite. Procurez-vous les vôtres dès maintenant sur auraeglisesaintroch.com.
Venez découvrir le programme de technique de thanatologie du campus Notre-Dame de Foix. Plongez au cœur du domaine funéraire et de la thanatopraxie tout en développant vos aptitudes à offrir réconfort aux familles en deuil. Au CNDF, vous serez guidé par des professeurs passionnés issus du milieu. Visitez CNDF fqc.ca
Mercado.fm.
Pour les fêtes, profitez des meilleures aubaines sur Mercado.fm. Présentement, obtenez un chèque cadeau de 100$ à 50$ chez Institut Diva. Un accès au bain pour une personne d'une valeur de 80$ à 40$ chez Énergie Spa. Et un chèque cadeau d'une valeur de 20$ à 10$ chez Bene Eco. Les meilleures offres, c'est toujours sur Mercado.fm.
Mercado.fm.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Du 1er au 7 décembre chez Matériaux Audet Timbermart. À l'achat du combo perceuse et visseuse à percussion Atomic DeWalt, choisissez un produit gratuit parmi 4 essentiels. Ponceuse, aspirateur, scie circulaire ou outil oscillant. Quantité limitée. Détails au matériauxaudet.ca.
Cineos Health. Pour un futur en santé.
Cineos Health, là où chaque témoignage fait la différence.
Salut, je suis David, 34 ans. Selon mon expérience chez Cineos Health, je vois que leur étude clinique attire une grande diversité de personnes. Tu peux participer à une étude qui dure un seul séjour de 12 nuits avec un appel téléphonique de suivi et une indemnité allant jusqu'à 5 890. Rejoins-nous et ensemble, faisons la différence au gocineos.com.
Cineos Health. Pour un futur en santé.
Du 27 novembre au 3 décembre chez FamilyPrix, profitez de 25% de rabais sur une sélection de soins Karine Jonca et ne manquez pas les produits Cascade, Gain, Tide à seulement 11,99 $. FamilyPrix, des économies qui font briller votre semaine.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock. Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Chaque lundi, on a le plaisir d'être accompagné de Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca pour des dossiers de SAC, des vagues de CNSST. Pensez à ce site web, bellemareavocat.ca. Maître Bellemare, il nous reste quelques sujets à aborder ce soir. Je vous parle d'un sujet qui est apparu dans le Journal de Montréal sous la plume de Michael Nguyen. Un Montréalais d'âge mûr, nous dit-on, qui regardait sur des sites Internet des relations à avoir avec des jeunes filles et il trouvait ça vraiment intéressant, avoir une relation avec des jeunes filles pour comme échange de cadeaux, d'argent, de vêtements et tout ça. Et il a commencé sa chasse dans les rues de Montréal et cet individu-là a tombé sur une personne qui n'était pas la bonne personne sur laquelle tomber. Quelle histoire, Maître Bellemare. Le gars écope de 23 mois de prison à domicile. C'est une sentence bonbon à mes yeux. Mais racontez-nous un peu l'histoire, comment ça s'est passé.
Ben, une rupture difficile à 61 ans. Il va sur les réseaux sociaux, puis il va voir des images. Puis jusque-là, en tout cas, on ne peut pas vraiment s'inquiéter. Mais en novembre 2022, il voit une petite fille qui revient de l'école. Elle a 12 ans. Elle n'est pas grosse à 12 ans. Là. Moi, j'ai eu trois filles, là, puis je veux te dire qu'à 12 ans, ils ne sont pas pesantes. Alors, la petite fille sort de l'école, puis ce gars-là, il la klaxonne, puis il la suit dans les rues. Écoute, c'est capotant, bien raide. C'est le genre d'affaire, là, tu sais, que tout parent a dit à un moment donné à un de ses enfants, ben si quelqu'un te suit, change de bord, prends le numéro de plaque si tu es capable, prends des routes bien éclairées, rentre dans la première maison qui vient. Puis rapporte-moi ça tout de suite qu'on puisse appeler la police. Alors, c'est effectivement ce qui s'est produit. Et Vincent Beaulieu, 61 ans, pas brillant, si tu veux mon opinion, là, parce qu'on a des criminels brillants des fois, hein, qui sont stratégiques, puis qui ont des stratégies pour ne pas se faire pogner, puis etc. Bien, lui, il envoie un papier à la petite fille avec son numéro de téléphone dessus. Fait que là, tu as l'écriture, tu as la calligraphie, tu as le numéro de téléphone du gars. Fait que la petite fille rentre dans la maison en disant ça à sa mère appelle la police. Puis là, la police décide de désigner une policière comme agent double qui se fait passer pour une fille de 14 ans. Ça aussi, c'est un exploit, là. Toi, là, tu te fais passer pour un petit gars de quel âge, d'après toi?
Dans mon cas, à moi...
Donc, t'es policier, là.
Des fois, quand je fais à croire aux filles que j'ai 26 ans, elles me croient plus. Mais je suis en quarantaine. Les filles me disent, t'as quel âge, Yann? Puis là, je dis, j'ai 26. Puis là, je fais un petit sourire. Mais là, ils voient mes pattes doigts. Puis ils disent, ah non, c'est sûr, t'as pas 26 ans. Fait que c'est dur pour moi. De... Ouais.
C'est sûr, mais l'agent double, la policière, s'est fait passer pour une fille de 14 ans.
Oui.
Elle doit pas être vieille. Mais ça s'est passé au téléphone, semble-t-il. Agent double. Donc, elle l'a pas rencontré, le gars, mais elle lui a donné un rendez-vous. Et puis, lui, il a envoyé des photos intimes avec sa grosse quéquette. Puis, il s'est présenté dans un McDo pour aller rencontrer la supposée petite fille de 14 ans. Puis, le 16 décembre 2022, il s'est fait épingler. Puis, il est rentré dans le McDo, puis il s'est fait arrêter. Puis, il a été accusé et il a été condamné à 23 mois dans la communauté. Effectivement, ça, c'est gracieuseté de Trudeau avec son... Justin Trudeau avec sa loi C5 de 2022 qui permet des peines dans la communauté pour des agressions sexuelles ou des comportements criminels de nature sexuelle. J'ai toujours été contre ça. On ne devrait pas permettre à une personne qui commet un crime de nature sexuelle sur un mineur d'avoir une peine dans la communauté. En prison, à l'intérieur des murs, introspection, réflexion, thérapie, collaboration avec des travailleurs sociaux... Et à ce moment-là, possibilité d'avoir éventuellement une libération conditionnelle, mais une peine dans la communauté, à mon avis, on n'atteint pas l'objectif, mais c'est néanmoins ce que la juge a considéré. Et malgré le fait que la Couronne ait demandé une peine de prison ferme, 23 mois dans la communauté avec un suivi thérapeutique, des travaux communautaires, puis inscrit au registre des délinquants sexuels pour 20 ans. C'est quand même pas un cadeau, là.
Ben,
je comprends
que
vous aimez mieux qu'il fasse la prison, mais il reste que... C'est pire qu'avoir une poque sur ton char. Là,
parce t'sais. Que quand on regarde le fil de l'histoire, lui, effectivement, bon, séparation, ça allait pas. Là, il a commencé à s'intéresser au phénomène des messieurs qui peuvent rencontrer des jeunes filles en échange de cadeaux et patati et patata. Là, il a commencé sa chasse avec sa voiture dans les rues et il a tombé sur une petite fille de 12 ans. Lui, ce qu'il a dit à la juge, c'est « Je pensais qu'elle avait 18 ans, mais 12 ans et 18 ans, il y a une marge, là, on va se le dire. Et là, la petite fille a eu peur. Elle a eu peur de se faire kidnapper. Fait qu'elle s'est sauvée. Elle a changé de direction. Puis le monsieur en a profité pour courir après. Ben, courir après. Faire un détour, puis avec sa voiture, rattraper la jeune fille pour baisser sa fenêtre, puis tirer son numéro de téléphone par la fenêtre. On parle de quelqu'un qui était vraiment un cave. Puis heureusement, on a réussi à le pogner. Mais tu sais, une petite fille de 12 ans versus une fille de 18 ans, il y a quand même une différence de grosseur, comme vous l'avez mentionné. On a affaire ici à un prédateur sexuel qui n'a pas obtenu une sentence, à mes yeux, qui va faire en sorte qu'il va bien réfléchir. Là, le fait que, bon, on a donné son nom puis son âge, j'ai peut-être des gens qui vont le reconnaître, mais j'aurais aimé avoir une belle grosse photo de cet individu-là placardée sur le site du Journal de Montréal, le site du Journal de Québec, partout au Québec, sur TVA Nouvelles. Souvent, des fois, Maître Bellemare, c'est ça la vraie sentence. Quand tes amis savent ce que tu as fait, quand ta famille sait ce que tu as fait, c'est ça la véritable sentence. Parce que, bon, lui, s'il cherche une job dans les prochains mois, il n'y a pas grand monde qui vont penser à taper son nom puis penser que c'est bel et bien ce gars-là qui a été déclaré coupable. Il y a une chose, par exemple, Maître Bellemare, c'est que la victime, elle, est traumatisée aujourd'hui. Elle est incapable de jouir de la vie. Elle est incapable d'aller jouer dans les parcs où elle avait l'habitude de le jouer. Elle est constamment en état d'alerte en se disant « Y a-t-il un prédateur sexuel qui va m'attaquer encore? » C'est une victime, puis très peu souvent, on pense aux victimes dans des sentences comme ça qui sont données. Je pense toujours à la balance de la justice. Là. D'un côté, il faut que les deux considèrent que justice a été rendue. Puis trop souvent, au Québec, les décisions font en sorte que c'est l'accusé qui va être déclaré coupable, qui va s'en sortir peut-être un peu mieux qu'il pensait, contrairement aux innocents, eux, qui ont été victimes d'un dossier où ils considèrent que la justice n'est pas de leur côté. Tu sais, je jasais en fin de semaine avec une jeune femme qui disait qu'elle avait été agressée sexuellement lorsqu'elle avait 7 ans. Puis elle est dans un processus, elle est dans son quatrième processus, Maître Bellemare, pour que ce gars-là se fasse arrêter. Là. Ça fait 4 fois depuis qu'elle est jeune qu'elle va rencontrer les policiers en disant « j'ai été violée ». 4 fois où elle va se présenter devant les enquêteurs. Et là, dans ce cas-ci, elle espère que c'est la bonne fois, là. Mais les autres fois, il n'y avait jamais assez de preuves. Puis combien de ces femmes-là qui ont été agressées sexuellement, Maître Bellemare, vont aller à l'étape de rencontrer des policiers? La réponse, c'est très peu. Et combien de ces femmes-là qui se disent victimes vont être crues par les policiers? Puis on va monter le dossier pour que finalement, il y ait une décision du juge qui leur est favorable pour que justice soit rendue. C'est un processus qui semble être atroce pour les victimes d'agressions sexuelles.
Ouais, c'est pas les policiers qui plaident les causes, c'est le DPCP. Alors, le policier, lui, il fait enquête, il reçoit une déposition, il va rencontrer les témoins s'il y en a, particulièrement la personne qui est identifiée comme étant l'agresseur. À ce moment-là, la police va chercher sa version. Et ça doit être soumis au DPCP, au directeur des poursuites criminelles et pénales, ce qu'on appelait autrefois le procureur de la Couronne. C'est lui qui plaide la cause et il peut décider de porter des accusations, même s'il y a uniquement le témoignage de la victime. Il y a beaucoup de cas où la victime est seule à témoigner, mais qu'elle est crédible, et l'agresseur arrive avec une version qui n'a pas d'allure, puis il va y avoir une condamnation. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir 40 témoins dans une cause d'agression sexuelle. Une personne crédible, avec des détails spontanés, qui se rappellent bien des faits, va être capable de dire « j'ai été victime d'une agression sexuelle, j'ai jamais consenti, puis ça s'est passé tel jour, telle heure », parce que tu le sais qu'en matière criminelle, il n'y a pas de prescription, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai pour déposer des accusations. Tu peux aujourd'hui porter des accusations contre quelqu'un qui t'a agressé sexuellement il y a 40 ans, là. Au criminel, il n'y a pas de prescription. Pour le civil, il n'y en a plus non plus depuis 2020, parce que le Code civil a été modifié pour les poursuites civiles. Mais pour les poursuites criminelles, il n'y a jamais de délai. Alors, il ne faut jamais abandonner.
Mais comment la Couronne comment le DPCP peut dire « Ah, ben dans ce cas-ci, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, dans certains cas. Puis dans d'autres, ça se ramasse en cours. Puis là, on confronte véritablement
ça,
le... »
Ça dépend de ce qu'ils disent, Yannick. Ça dépend de ce qu'ils disent. Tu sais, si l'agresseur, en tout cas la personne qui est identifiée comme étant l'agresseur potentiel, a un discours cartésien, solide, vraisemblable, avec des détails, avec quelque chose de crédible, bien, la couronne n'ira pas accuser parce qu'il y a un doute raisonnable. Ça veut dire que le gars va être acquitté pour un doute raisonnable et il n'y aura pas d'accusation. Mais si le gars est tout croche dans ce qu'il dit, puis qu'il, c'est une chose et son contraire dans la même phrase, puis que la victime, elle, est stable, qu'elle est posée, qu'elle donne des détails, qu'elle est crédible, la couronne pourrait porter des accusations. Tout dépend des circonstances. Il y a des accusés potentiels qui sont crédibles, puis il y a des victimes qui ne le sont pas. C'est comme dans n'importe quoi. Ça dépend. Dans chaque dossier, c'est différent. Et c'est au procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales à décider s'il y aura des accusations. Et si le DPCP a la conviction morale d'obtenir une condamnation parce qu'il pense qu'il y a un dossier solide, il va en déposer. Puis même s'il y a juste deux témoins, la victime d'un côté et le potentiel agresseur de l'autre côté qui vont témoigner, le juge pourrait se faire une tête puis décider que la victime a raison et que l'individu va être condamné, ça pourrait arriver.
Dernier sujet, Maître Bellemare, reste quelques minutes. C'est une chronique de Marie-Ève Fournier dans la presse. On parle d'une chicane de famille. Qui peut voir le testament? On a déjà eu des parents, un père, une mère. On a déjà eu un frère, une sœur. Bon, on n'espère pas que ces gens-là décèdent, bien entendu, mais quand ces gens-là décèdent puis il y a un testament, est-ce que le notaire est obligé, si moi je le demande, de me montrer le testament de mon père ou de mon frère ou de ma sœur ou de ma conjointe si le notaire ne pense pas à m'écrire pour me dire « Monsieur Marceau, vous êtes convié à mon bureau à 9h15 demain matin. »
Oui, il y a deux types de personnes qui ont le droit d'avoir accès au testament en vertu du Code civil. Les premiers, c'est évidemment ceux qui héritent, parce que si ton nom est marqué sur le testament, c'est bien sûr que tu as le droit de l'avoir parce que tu es le principal intéressé, le principal bénéficiaire. Que ce soit un legs universel ou un legs particulier. Et les autres personnes qui ont le droit d'avoir le testament, c'est ceux et celles qui auraient hérité s'il n'y avait pas eu de testament, pour pouvoir précisément leur permettre d'attaquer le testament en justice si jamais ils pensent que le défunt, le découillot, ce qu'on appelle, n'avait pas le libre consentement, qu'il n'avait pas toute sa tête au moment où il a établi ce testament-là. Surtout, si les volontés testamentaires ont changé 3-4 jours avant le décès, il y a peut-être eu de l'influence. Peut-être que mon oncle ou papa n'étaient pas totalement lucides. Donc, ceux qui seraient susceptibles d'hériter en cas d'annulation du testament, dont ceux que le Code civil donne comme héritier, principalement, ben, c'est le conjoint et les enfants. Dans tous les cas, si tu meurs sans testament, ton conjoint, ta conjointe et tes enfants vont avoir le droit d'hériter en vertu du Code civil. On appelle ça une succession ab intestat. À ce moment-là, ces gens-là ont également accès au testament, mais le voisin ou le cousin de la troisième fesse, lui, il n'a pas le droit d'avoir ça parce qu'il est simplement par curiosité. Puis si le notaire ne veut pas donner le testament, tu peux exercer un recours en justice pour demander au juge d'obtenir le testament. Puis si tu as des bonnes raisons, le juge va t'autoriser.
Okay. Puis est-ce qu'on a le droit de revenir 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 20 ans en arrière?
Bien, le testament, à partir du moment où tu en es conscient, il y a un délai, il y a une prescription de 3 ans. La prescription, c'est le délai où on peut exercer un recours. Donc, normalement, ça s'exerce 3 ans à partir du moment où tu sais qu'il y a eu une malversation ou qu'il y a eu un mauvais consentement qui a été donné. Mais c'est la prescription générale de 3 ans qui s'applique ici.
Je comprends.
Donc, faut pas trop taponner. Mais pour faire la preuve que grand-papa ou que papa n'était pas lucide au moment où il a signé le testament, il faut que tu attaches ta tuque et que tu aies une bonne preuve. Parce que là, il faut que tu trouves des médecins pour prouver qu'il n'était pas lucide précisément au moment où il a rencontré le notaire. Parce que le notaire, même s'il n'est pas médecin, il va dire « je l'ai rencontré puis il m'apparaissait correct parce qu'il a fait un contrat notarié ». Mais si tu trouves un médecin qui dit « ah non, à ce moment-là, il était sur les pilules puis il ne comprenait pas ce qu'il faisait », à ce moment-là, il y aurait une possibilité, mais c'est à toi qui attaque le testament à prouver qu'il y a eu un défaut de consentement au moment précis où la signature est apposée.
Maître Bellemare, je vous souhaite un joyeux mois de décembre. Il reste 32 jours, puis après ça, le temps des fêtes est fini, puis on repart sur 2026. Fait qu'on lâche pas.
Parfait, merci.
C'est toujours un plaisir. Bonne
semaine à tout le monde.
Oui, puis on se reparle lundi prochain pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et on se reparle demain à la même heure. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Le temps des fêtes approche et vous cherchez un moyen d'aider les gens dans le besoin? Certaines familles ou personnes vulnérables peinent à maintenir une condition de vie acceptable. Noël s'annonce plus difficile pour certains. En cette période d'amour et de partage, rendez-leur un peu de dignité en donnant à la guignolée de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Rendez-vous à faire-la-différence.ca pour un don en ligne ou passez à l'épicerie près de chez vous pour remettre des denrées à nos bénévoles. Cette année, faites la différence.
Manque pas l'offre du Vendredi fou de e-box. Reçois un mois gratuit en t'abonnant au forfait Internet fibre 1 gigabit par seconde à $55 par mois au e-box.ca.
Faites le tour du monde dans le plus grand parc de type Legoland en Amérique, Ludovica Miniland. Plus de 3000 bâtiments et monuments à découvrir dans un panorama époustouflant que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Seul ou en famille, prenez la route de la découverte à Laurier, Québec. Ludovica.ca.
Telio Assurance, c'est aussi des assurances spécifiques pour les entreprises. Avec notre département PME et commercial qui travaille pour développer vos solutions d'affaires, qui couvre plusieurs secteurs d'activité et types d'entreprises, nous avons les meilleures solutions pour protéger vos biens et vos actifs. Nous proposons aussi une gamme de programmes spécialisés tels que cyber-risque, camionnage et programmes d'hébergement touristique et de tout genre pour la location court terme. Chez Telio, on se mêle de vos affaires. Visitez telioassure.com.
Chez Couche-Tard, obtenez un billet Célébration 2026 gratuit à l'achat de deux caisses de 18 ou 20 sélectionnées. Parmi celles-ci, profitez du prix minimum sur la caisse de 18 Budweiser. Dépêchez-vous, l'offre est limitée. 18 ans et plus, consommez de façon responsable.
Les bornes de recharge et le service client t'interpellent. E3 Électricité, une entreprise dynamique offrant des services d'installation électrique résidentielle et commerciale, recrute un électricien compagnon. Vous êtes autonome, dynamique et allumé? Postulez au e3electricité.ca ou au carrière.fm.
Vas-y, je t'écoute.
Bravo, bravo, ma Charlotte. Ça paraît que t'as pratiqué une vraie virtuose. Ton avenir est assuré.
À tout âge, on a besoin d'être...